7. Pourtant, une heure après, Jean Barada reparut encore, ayant l'air d'être venu ranger un de ces palans dont on se sert pour les canons. Et cette fois, Yves l'appela tout bas. « Barada, tu devrais bien me donner un peu d'eau douce pour boire. » Barada alla vite chercher sa petite moque, qu'il portait pendue à sa ceinture le jour et qu'il serrait la nuit dans un canon. Il y mit de l'eau, qui était couleur de rouille, ayant été rapporté de la Plata dans une caisse de fer, et un peu de vin volé à la cambuse, et un peu de sucre volé à l'office du commandant. Et puis il souleva la tête d'Yves, tout doucement, avec bonté, et le fit boire. « Et à présent, dit-il, veux-tu te changer ?»« Oui, répondit Yves, d'une toute petite voix devenue presque enfantine, et qui était drôle par contraste avec sa manière de tout à l'heure. À deux, ils le déshabillèrent, lui se laissant câliner comme un enfant. On essuya bien sa poitrine, ses épaules et ses bras, on lui mit des vêtements secs et on le recoucha en plaçant sous sa tête un sac pour qu'il pût mieux dormir. Quand il leur dit merci, un bon sourire, le premier, vint changer toute sa figure. C'était la fin. Son cœur était amolli et redevenu lui-même. Aujourd'hui, cela n'avait pas été bien long. Il sentait un attendrissement infini en songeant à sa mère et une envie de pleurer. Quelque chose comme une larme vint même dans ses yeux, qui étaient durs pourtant à cette faiblesse-là. Peut-être serait-on encore un peu indulgent pour lui, à cause de sa bonne conduite à bord, de son courage à la peine et de son rude travail dans le mauvais temps. Si c'était possible, si on ne lui donnait pas une punition trop grave, il est certain qu'il ne recommencerait plus et se ferait tout pardonner. C'était une grande résolution cette fois. Quand il avait bu seulement un verre d'eau-de-vie, après les longues abstinences de la mer, tout de suite sa tête partait. Et alors il en fallait d'autres, et d'autres encore. Mais en ne commençant pas du tout, et en ne buvant jamais rien, il aurait encore un moyen sûr de rester sage. Son repentir avait la sincérité d'un repentir d'enfant, et il croyait beaucoup que s'il pouvait échapper pour cette fois à ce conseil terrible qui mène les matelots en prison, ce serait sa dernière grande faute. Il avait aussi espoir en moi, et puis surtout envie de me voir, et il pria Barada de monter me chercher. Il y avait 7 ans qu'Yves était mon ami quand il fit cette équipée de retour. Nous étions entrés dans la marine par des portes différentes, lui 2 années avant moi, bien qu'il fût de quelques mois plus jeune. Le jour où j'étais arrivé à Brest, en 1867, pour y prendre ce premier uniforme de marin en toile dure, que je vois encore, le hasard m'avait fait rencontrer Yves Kermadec chez un protecteur à lui, un vieux commandant qui avait connu son père. Yves était alors un enfant de 16 ans. On me dit qu'il allait passer novice après 2 années de mousse. Pour le moment, il revenait de son pays à l'expiration d'une permission de 8 jours qu'on lui avait donnée. Il semblait avoir le cœur très gros des adieux qu'il venait de faire pour longtemps à sa mère. Cela et notre âge, qui était à peu près le même, c'était entre nous 2 points communs. Un peu plus tard, devenu midship, je retrouvai sur mon premier navire ce Kermadec qui s'était fait homme et qui était gabier. Alors je le choisis pour être mon gabier de hamac. Pour un midship, le gabier de hamac, c'est le matelot chargé de lui accrocher tous les soirs son petit lit suspendu et de le lui décrocher tous les matins. Avant d'emporter le hamac, il faut naturellement réveiller le dormeur qui est dedans et le prier de descendre. Cela se fait en général en lui disant « Il est branle-bas, capitaine ». On répète plusieurs fois cette phrase jusqu'à ce qu'elle ait produit son effet. Après, on roule soigneusement la petite couchette et on l'emporte. Yves s'acquittait très bien de ce service. De plus, nous nous rencontrions journellement pour la manœuvre là-haut dans la grande hune. Il y avait une solidarité dans ce temps-là entre les midships et les gabiers. Surtout pendant les campagnes lointaines comme celles que nous faisions, cela devenait entre nous très cordial. À terre, dans les milieux étranges où quelquefois nous rencontrions la nuit nos gabiers, il nous arrivait de les appeler à la rescousse quand il y avait péril aux mauvaises aventures. Et alors, ainsi réunis, on pouvait faire la loi. Dans ces cas-là, Yves était notre allié le plus précieux. Comme note au service, les siennes n'étaient pas excellentes. Exemplaire à bord, l'homme le plus capable et le plus marin, mais sa conduite à terre n'est plus possible. Ou bien, a montré un courage et un dévouement admirables, et puis, indiscipliné, indomptable. Ailleurs, zèle, honneur et fidélité, avec incorrigible en regard, etc. Ces nuits de fer, ces jours de prison ne se comptaient plus. Au moral comme au physique, grand, fort et beau, avec quelques irrégularités de détail. À bord, il était le gabier infatigable, toujours à l'ouvrage, toujours vigilant, toujours leste, toujours propre. À terre, le marin embordé, tapageur, ivre, c'était toujours lui. Le matelot qu'on ramassait le matin dans un ruisseau, à moitié nu, dépouillé de ses vêtements comme un mort, par les nègres quelquefois, ailleurs par les Indiens ou par les Chinois, c'était encore lui. Lui aussi, le matelot échappé, qui battait les gendarmes ou jouait du couteau contre les alguazils. Tous les genres de sottises lui étaient familiers. D'abord, je m'amusais des choses que faisait ce Kermadec. Quand il allait à terre avec sa bande, on se demandait au poste des midships « Quelle nouvelle histoire apprendrons-nous demain matin ? Dans quel état vont-ils revenir ?» Et moi, je songeais « Mon hamac ne sera pas fait d'au moins 2 jours. » Cela m'était égal pour mon hamac. Seulement, ce Kermadec était si dévoué, il paraissait avoir un si brave cœur, que j'avais fini par m'attacher à cette espèce de forban généralement gris. Je ne riais plus tant de ces méfaits dangereux, et j'aurais préféré les empêcher. Cette première campagne terminée, et nous séparés, il se trouva que le hasard nous réunit encore sur un autre navire. Oh, alors, cela devint presque de l'affection. Et puis, il y eut, à ce second voyage, 2 circonstances qui nous rapprochèrent beaucoup. La première fois, c'était à Montevideo, un matin avant le jour. Yves était à terre depuis la veille, et moi, j'arrivais au quai dans un grand canot armé de 16 hommes, avec mission de faire provision d'eau douce. Je me rappelle cette demi-lueur fraîche du matin, ce ciel déjà lumineux et encore étoilé, ce quai désert que nous longions en ramant doucement, cherchant les gades. Cette grande ville, qui avait un faux air d'Europe, avec je ne sais quoi d'encore sauvage. En passant, nous voyions ces longues rues droites, immenses, s'ouvrir l'une après l'autre sur le ciel qui blanchissait. À cette heure indécise où la nuit allait finir, plus une lumière, plus un bruit. De loin en loin, quelques rôdeurs s'engitent à l'allure hésitante. Le long de la mer, des tavernes dangereuses, grandes bâtisses en planches, sentant les épices et l'alcool, mais fermées et noires comme des tombeaux. Nous nous arrêtâmes devant une qui s'appelait la taverne de la Independencia. Une chanson espagnole venant de l'intérieur comme étouffée. Une porte entrebâillée sur la rue, 2 hommes dehors se donnant des coups de couteau. Une femme ivre qu'on entendait vomir le long du mur. Sur le quai, des monceaux de peau de bœuf des pampas fraîchement écorchés, infectant l'air pur et délicieux d'une odeur de venaison. Un convoi singulier sortit de cette taverne. 4 hommes en emportant un autre, qui devait être très ivre, sans connaissance. Ils se hâtaient vers les navires comme ayant peur de nous. Nous connaissions ce jeu, qui est en usage dans les mauvais lieux de cette côte. Enivrer les marins, leur faire signer quelque engagement insensé, et puis les embarquer de force quand ils ne tiennent plus debout. Ensuite, on appareille bien vite, et quand l'homme revient à lui, le navire est loin. Alors il est pris sous un joug de fer, on l'amène comme un esclave pêcher la baleine, loin de toute terre habitée. Une fois là, d'ailleurs, plus de danger qu'il s'échappe, car il est déserteur à son pays, perdu. Donc ce convoi qui passait nous semblait suspect. Il se pressait comme des voleurs, et je dis aux matelots « Courons leur dessus !» Eux alors de lâcher leur fardeau qui tomba lourdement par terre, et puis de s'enfuir à toutes jambes. Le fardeau, c'était Kermadec. Du temps que nous étions occupés à le ramasser, à le reconnaître, nous avions laissé échapper les autres, qui s'étaient enfermés dans la taverne. Les matelots voulaient enfoncer les portes, la prendre d'assaut, mais il en serait résulté des complications diplomatiques avec l'Uruguay. D'ailleurs, Yves était sauvé, et c'était l'essentiel. Je le rapportai à bord, couché dans un manteau, sur les autres qui contenaient notre provision d'eau douce. Cela m'attacha beaucoup à lui de lui avoir rendu ce service. La seconde fois, c'était à Pernambouc. J'avais perdu sur parole dans une maison de jeu avec des Portugais. Le lendemain, il fallait donner cet argent, et comme il ne m'en restait pas, ni aux amis du poste non plus, cela devenait difficile. Yves avait pris cette situation très au tragique, et vite, il était venu m'offrir son argent à lui, qui était déposé sous ma garde dans un tiroir de mon secrétaire.
« Ça me ferait tant de plaisir, capitaine, si vous vouliez le prendre. D'abord, je n'ai plus besoin d'aller à terre, moi, et même ça me rendrait service, vous le savez bien, de ne plus pouvoir y retourner.
Eh bien oui, mon brave Yves, je l'accepterai pour quelques jours, ton argent, puisque tu veux me le prêter. Mais c'est que, vois-tu, il me manquerait encore 100 francs. Alors tu comprends, ça ne vaut pas la peine. Encore 100 francs, je crois que je les ai en bas dans mon sac. » Et il s'en alla, me laissant très étonné. Dans son sac encore 100 francs, cela n'était pas vraisemblable. Il fut très longtemps à revenir. Il ne trouvait pas, j'avais prévu cela. Enfin, il reparut. « Voilà, dit-il, en me tendant son pauvre porte-monnaie de matelot, avec une bonne figure heureuse. » Alors une frayeur me vint, et je lui dis pour voir, « Yves, prête-moi aussi ta montre, je te prie. J'ai laissé la mienne en gage. » Il se troubla beaucoup, racontant qu'elle était cassée. J'avais deviné juste. Pour avoir ses 100 francs, il venait de la vendre avec la chaîne, moitié de son prix, à un quartier maître du bord. Aussi Yves savait-il qu'il pouvait en appeler à moi en toutes circonstances. Et quand Barada vint me chercher de sa part, je descendis le trouver dans la cale, au fer. Mais il s'était mis cette fois dans un cas bien grave, en bousculant ce vieux maître. Et j'eus beau intercéder pour lui, la punition fut dure. 4 mois après, il lui fallut repartir sans avoir vu sa mère. Au moment de m'embarquer avec lui sur la Sibylle pour un tour du monde en 300 jours, je l'emmenai un dimanche à Saint-Paul-de-Léon afin de le consoler. C'était tout ce que je pouvais pour lui, car son Plouerzel était bien loin de Brest, dans les côtes du Nord, au fond d'un pays perdu, et on n'avait encore construit par là aucun chemin de fer capable en une journée de nous y conduire. 9. 5 mai 1875. Il y avait des années qu'Yves rêvait de revoir ce Saint-Paul-de-Léon, le pays de sa naissance. Du temps que nous naviguions ensemble sur la mer brumeuse, souvent en passant au large, balancé par la houle grise, nous avions vu le clocher légendaire de Crèvecœur se dresser dans les lointains noirs, au-dessus de cette bande triste et monotone qui représentait là-bas la terre de Bretagne, le pays de Léon. Et les nuits de quart, nous chantions la chanson bretonne « Je suis natif du Finistère, à Saint-Paul j'ai reçu le jour, mon clocher est le plus beau de la terre, mon pays le plus beau d'alentour. Rendez-moi ma bruyère et mon clocher à jour. » Mais c'était comme une fatalité, comme un sort jeté sur nous. Jamais nous n'avions pu réussir à y aller, à ce Saint-Paul. Au dernier moment, quand nous nous mettions en route, toujours des empêchements nouveaux. Notre navire recevait des ordres inattendus et il fallait repartir. Et nous avions fini par attacher je ne sais quelle pensée superstitieuse à ce clocher de Crèvecœur, entrevu seulement et toujours de loin, en silhouette, au bout de l'horizon sombre. Cette fois pourtant, cela semble assuré, nous y allons pour tout de bon. Dans le coupé d'une vieille diligence de campagne, nous sommes assis tous deux à côté d'un curé breton. Les chevaux nous emportent assez bon train vers le pays de Saint-Paul, et tout cela a un air très réel. C'est de bon matin au premier jour de mai. Cependant, la pluie tombe fine et grise comme une pluie d'hiver. Clopin clopant par la route tortueuse, montant les pentes raides, descendant dans les bas-fonds humides, nous roulons au milieu des bois et des rochers. Les hauteurs sont couvertes de sapins noirs. Dans les lieux bas, ce sont de grands chênes ou des hêtres dont les feuilles toutes neuves, toutes mouillées, sont d'un vert tendre. Le long du chemin, il y a des tapis de marguerites et de fleurs bretonnes, les premiers silènes roses et les premières digitales. Au détour d'un rocher, la pluie cesse comme le vent et du même coup, tout change d'aspect. Nous découvrons à perte de vue un grand pays plat, une lande aride,
nu comme un désert, le vieux pays de Léon, au fond duquel, tout là-bas, le Kreisker dresse sa flèche de granit. Il a du charme pourtant, ce pays triste, et Yves sourit en apercevant son clocher qui s'approche. Les ajoncs sont en fleurs, et toute la plaine est d'une couleur d'or. Par place, il y a des zones roses qui sont des bruyères. Un voile de vapeur gris-perle, d'une teinte très douce, d'une teinte septentrionale, couvre le ciel tout d'une pièce, et dans la monotonie de ce pays jaune et rose, tout au bout de l'horizon profond, rien que ses points saillants, la silhouette de Saint-Paul et des trois clochers noirs. Des petites filles bretonnes chassent devant elles des troupeaux de moutons dans les bruyères. De jeunes gars les effarouchent en caracolant sur des chevaux nus. Des carrioles passent, chargées de femmes en coiffes blanches, qui s'en vont entendre la messe à la ville. Les cloches sonnent, la route s'anime joyeusement, nous arrivons.
10. Quand nous eûmes déjeuné tous deux dans l'auberge la plus comme il faut, nous trouvâmes que la matinée d'hiver avait fait place à une belle journée de mai. Dans les petites rues solitaires, des branches de lilas, des grappes de glycine, des digitales roses que personne n'avait semées, égayaient les murs gris. Il y avait du vrai soleil, et tout sentait le printemps. Et Yves regardait partout, s'étonnant qu'aucun souvenir ne lui revînt de sa petite enfance, cherchant très loin dans sa mémoire, ne reconnaissant rien, et alors, peu à peu, se trouvant désenchanté. Sur la grande place de Saint-Paul, la foule du dimanche était assemblée, et c'était comme un tableau du Moyen-Âge. La cathédrale des anciens évêques de Léon dominait cette place, l'écrasait de sa masse aux dentelures noires, y jetant une grande ombre des temps passés. Autour, il y avait des maisons antiques à pignons et à tourelles. Tous les buveurs du dimanche, portant de travers leurs feutres larges, étaient attablés devant les portes. Cette foule en habits bretons, qui était là, vivante et alerte, était encore pareille à celle des anciens jours. Dans l'air, on entendait vibrer que les syllabes dures, le « ya » septentrional de la langue celtique. Yves passa assez distrait dans l'église, sur les dalles funéraires et sur les vieux évêques endormis. Mais il s'arrêta tout pensif à la porte devant les fonts baptismaux. « Regardez, dit-il, on m'a tenu là-dessus. Et nous devions demeurer tout près d'ici. Ma pauvre mère m'a souvent dit que le jour de mon baptême, quand on lui a fait ce vilain affront de ne pas sonner pour moi, vous savez bien, de son lit, elle avait entendu chanter les prêtres. » Malheureusement, Yves a négligé de prendre à Plouerzel, auprès de sa mère, les indications qu'il nous aurait fallu pour retrouver cette maison où il demeurait. Il avait compté sur sa marraine, nommée Yvonne Kergaoc, qui devait habiter précisément sur cette place de l'église. Et, en arrivant, nous avions demandé cette Yvonne Kergaoc. Kergaoc, on s'en souvenait bien. Mais d'où revenez-vous donc, mes bons messieurs? Elle est morte depuis 12 ans. Quant au Kermadec, non, personne ne se les rappelait, cela. Et il n'y avait guère à s'en étonner. Depuis plus de 20 ans, ils avaient quitté le pays. Nous montâmes au clocher de Kreisker. Naturellement, c'était haut. Cela n'en finissait plus, cette pointe dans l'air. Nous dérangions beaucoup les vieilles corneilles nichées dans le granit. Une merveilleuse dentelle de pierre grise qui montait toujours, et qui était légère à donner le vertige. Nous nous élevions là-dedans par une spirale étroite et rapide, découvrant par toutes les découpures du clocher à jour des échappées infinies. En haut, isolés tous deux dans l'air vif et dans le ciel bleu, nous regardions les choses comme en planant. Sous nos pieds d'abord, il y avait les corneilles qui tournoyaient comme un nuage, nous donnant un concert de cris tristes. Beaucoup plus bas, la vieille ville de Saint-Paul, tout aplatie, une foule lilliputienne s'agitant dans ses petites rues grises, comme un essaim de Buchelnoz ou Farfadet. À perte de vue, du côté du sud, s'étendait le pays breton jusqu'aux montagnes noires. Et puis, au nord, c'était le port de Roscoff, avec des milliers de petits rochers bizarres, criblant de leurs têtes pointues le miroir de la mer. Le miroir de la grande mer bleu pâle, qui s'en allait se fondre là-bas très loin dans la pâleur semblable du ciel.
Cela nous amusait d'avoir enfin réussi à monter dans ce Kreisker qui nous avait tant de fois regardé passer au milieu de cette eau infinie. Lui, planté tranquille, toujours là, inaccessible et immuable, quand nous, pauvres gens de la mer, nous étions malmenés par tous les mauvais vents du large. Cette dentelle de granit qui nous soutenait en l'air était polie, rongée par les vents et les pluies de 400 hivers. Elle était d'un gris foncé à reflets roses. Il y avait dessus, par plaques, ce lichen jaune, cette mousse du granit qui met des siècles à pousser et qui jette des tons dorés sur toutes les vieilles églises bretonnes. Les gargouilles à laides figures, les petits monstres aux traits vagues qui vivent là-haut dans l'air, grimaçaient à côté de nous au soleil, comme gênés d'être regardés de si près, comme s'étonnant en eux-mêmes d'être si vieux, d'avoir essuyé tant de tempêtes et de se retrouver en pleine lumière. C'était ce monde-là qui avait présidé de haut à la naissance d'Yves. C'était ce monde aussi qui, de loin, nous regardait avec bienveillance passer sur la mer, quand nous ne distinguions, nous, qu'une indécise flèche noire. Et nous faisions connaissance avec lui. Yves était toujours très désenchanté, pourtant, de n'avoir retrouvé aucune trace de son ancienne demeure ni de son père. Aucun souvenir, pas plus dans la mémoire des autres que dans la sienne. Et il regardait toujours à ses pieds les maisons grises, celles surtout qui étaient le plus près de la base du clocher, attendant quelque intuition du lieu où il était né. Nous n'avions plus qu'une demi-heure à passer à Saint-Paul avant de prendre la diligence du soir. Le lendemain matin, nous devions être de retour à Brest, où notre navire nous attendait pour nous emmener encore une fois très loin de la Bretagne. Nous nous étions attablés à boire du cidre dans une auberge, sur la place de l'église, et là encore nous interrogions l'hôtesse, qui était une très vieille femme. Mais celle-ci s'émut tout à coup en entendant le nom d'Yves. « Vous êtes le fils d'Yves Kermadec, dit-elle. Oh, si j'ai connu vos parents, je crois bien. Nous étions voisins dans ce temps-là, monsieur. Et même, quand vous êtes arrivé au monde, on est venu me chercher. Mais c'est que vous lui ressemblez à votre père. Aussi, je vous regardais quand vous êtes entré. Vous n'êtes pas encore si beau que lui, dame, quoique vous soyez pourtant un bien bel homme. » Yves, à ce compliment, me jette un coup d'œil avec une envie de rire. Et puis la vieille femme, très bavarde, se met à lui raconter un tas de choses sur lesquelles un peu plus de 20 années ont passé et que lui écoute, recueilli et tout ému. Ensuite, elle appelle encore d'autres femmes qui étaient aussi des voisines, et tout ce monde raconte. « Jésus m'a doué, » disent-elles. « Comment cela se peut-il qu'on ne vous ait pas répondu plus tôt ? Tout le monde s'en souvient de vos parents, mon bon monsieur. Mais les gens sont bêtes dans notre pays. Et puis, quand on voit des étrangers comme ça, pas étonnant qu'on ne soit pas très causeur. » Le père d'Yves a laissé dans le pays le souvenir un peu légendaire d'une sorte de géant qui était d'une rare beauté, mais qui ne savait faire rien comme les autres. Quel dommage, monsieur, qu'un homme comme ça fût si souvent dérangé. Car il s'est ruiné au cabaret, votre pauvre père. Pourtant, il aimait beaucoup sa femme et ses enfants. Il était très doux avec eux, et dans le pays, tout le monde l'aimait, excepté monsieur le curé. Excepté monsieur le curé, me répéta Yves, devenu tout sombre. Voyez-vous, c'est bien ce que je vous ai conté au sujet de mon baptême. Un jour, il y avait une bataille ici sur la place en 1848 pour la Révolution. Votre père avait tenu tête tout seul aux gens du marché et sauvé la vie à monsieur le maire. Il avait un grand cheval, dit l'hôtesse, qui était si méchant que personne n'osait l'approcher. Et on se garait, allez, quand il passait sur cette bête. Ah, dit Yves, frappé tout à coup comme d'une image qui lui serait revenue de très loin. Je me souviens de ce cheval, et je me rappelle que mon père me prenait dans ses mains et m'asseyait dessus quand il était amarré à l'écurie. C'est la première fois que je me souviens de mon père, et que je revois un peu sa figure. Il devait être noir, ce cheval. Il avait les pieds blancs. « c'est cela, dit la vieille femme, noir avec les pieds blancs. C'était une bête terrible, et Jésus m'a doué, quelle idée pour un marin d'avoir un cheval !» L'auberge est remplie de buveurs de cidre qui font un joyeux tapage de verres et de conversations bretonnes. On forme un peu cercle autour de nous. L'hôtesse a 4 petites filles, toutes pareilles, qui sont jolies à ravir sous leurs coiffes blanches. On ne dirait pas des filles d'auberge. C'est le type accompli de la belle race bretonne du Nord, et puis elles ont l'expression tranquille et réfléchie de ces femmes d'autrefois que les portraits anciens nous ont conservées. Elles aussi se tiennent près de nous, regardent et écoutent. À notre tour, on nous interroge. Yves répond « Ma mère habite toujours à Ploerzel avec mes deux sœurs. Mes deux frères, Gilda et Gulven, naviguent à la grande pêche sur des baleiniers américains. Moi seul, je navigue depuis 10 ans à l'état. » Il n'y a pas beaucoup de temps à perdre pour nous qui voulons aller voir, avant de partir, l'ancienne maison des Kermadec. Elle est là, tout près à toucher l'église. On nous l'indique de la porte en nous recommandant de demander à entrer dans la chambre à gauche, au premier. C'est celle où Yves est né. À côté de la maison, il y a le grand parc abandonné de l'évêché de Léon, où, paraît-il, Yves, quand il était tout petit enfant, allait chaque jour se rouler dans l'herbe avec Gulven. Elle est très haute aujourd'hui, cette herbe de mai, remplie de marguerites et de silènes. Dans ce parc, les rosiers, les lilas poussent maintenant au hasard comme dans un bois. Nous frappons à la porte de la maison que ces dames nous ont indiquée, et ceux qui demeurent là s'étonnent un peu de ce que nous venons demander. Mais nous n'inspirons pas de méfiance, et on nous recommande seulement de ne pas faire de bruit en entrant dans cette chambre du premier, à cause d'une vieille grand-mère qui dort là et qui est sur le point de mourir. Et puis on nous laisse seuls par discrétion. Nous entrons sur la pointe du pied dans cette grande chambre qui est pauvre et presque vide. Les choses ont l'air de pressentir cette visiteuse sombre qui est attendue. On se demande même si elle n'est pas déjà arrivée, et les yeux se portent avec inquiétude vers un lit dont les rideaux sont fermés. Yves regarde partout, essayant de tendre son intelligence vers le passé, s'efforçant de se souvenir. Mais non, c'est fini. Et là même, il ne retrouve plus rien. Nous redescendions pour nous en aller, quand tout à coup quelque chose lui revint, comme une lueur lointaine. « Ah, dit-il à présent, je crois que je reconnais cet escalier. Tenez, en bas, il doit y avoir une porte de ce côté-là pour entrer dans la cour, et un puits à gauche avec un grand arbre, et au fond, l'écurie où se tenait le cheval au pied blanc. C'était comme si une éclaircie se fût faite tout à coup dans des nuages. » Yves s'était arrêté sur ses marches, et les yeux graves, il regardait par cette trouée qui venait de s'ouvrir subitement sur le passé. Il était très saisi de se sentir aux prises avec cette chose mystérieuse qui est le souvenir. En bas, dans la cour, nous trouvâmes bien tout comme il l'avait annoncé, le puits à gauche, le grand arbre et l'écurie. Et Yves me dit avec une sorte d'émotion de frayeur, en se découvrant comme sur un tombeau, « Maintenant, je revois très bien la figure de mon père. » Il était grand temps de partir. La diligence nous attendait. Tout le temps que nous mîmes à traverser la lande couleur d'or, pendant le long crépuscule de mai, nos yeux se fixèrent sur le clocher à jour qui s'éloignait, qui se perdait là-bas au fond de l'obscurité limpide. Nous lui faisions nos adieux, car nous allions partir le lendemain pour des mers très lointaines où il ne pourrait plus nous voir passer. « Demain matin, disait Yves, il faudra que vous me permettiez d'entrer de bonne heure dans votre chambre, à bord, pour écrire sur votre bureau. Je voudrais raconter tout cela à ma mère avant de partir de France. Et, tenez, je suis sûr que les larmes lui viendront dans les yeux quand on lui lira ma lettre. »